Je suis très content que vous soyez aujourd'hui pour cette conférence parce que c'est un thème que j'aime beaucoup traiter. Comment prier devant le très saint sacrement, prier devant le tabernacle. Dans un rappel historique assez bref, je vais vous apprendre ou vous rappeler qu'on n'a pas toujours prié devant le saint sacrement comme vous aimez le faire maintenant. Pour le dire tout de suite, ça date pratiquement du 18e siècle. Pendant des siècles, les chrétiens croyaient autant que nous à la présence réelle du Christ dans les tabernacles, mais ils n'éprouvaient pas le besoin de s'arrêter devant le tabernacle. Ils ne faisaient même pas de génuflexion devant la sainte réserve. Autrement dit, les chrétiens faisaient ce que font encore nos frères d'Orient. Ils savent que la sainte réserve se trouve quelque part derrière l'iconostase. Ils la conservent précieusement. Ils croient que c'est Jésus réellement présent qui est là, mais ils ne s'attardent pas devant cette sainte réserve. Ça pourrait vous scandaliser, mais vous savez, on en a vu d'autres dans l'histoire de l'Église. Le Saint-Esprit n'avait pas encore poussé les chrétiens à profiter de cette présence du Christ au tabernacle. Mais, du coup, ils n'oubliaient pas ce que nous risquons tous d'oublier, nous qui prions beaucoup devant le Saint-Sacrement. Ils n'oubliaient pas, nos ancêtres dans la foi, que Jésus est partout présent. Jésus, il est dans cette salle où nous sommes en train de réfléchir sur un aspect de notre foi. Où que nous soyons, Jésus ressuscité est avec nous. Il ne faut pas limiter la présence du Christ ressuscité à la présence du Christ dans les tabernacles de nos églises. Jean-Paul II, dans sa toute dernière encyclique sur l'Eucharistie, rappelle avec force qu'il faut parler d'une présence réelle du Christ en dehors de l'Eucharistie. Il reprend une expression de son prédécesseur, Paul VI. Il n'y a rien de plus terrible que ces chrétiens qui quittent l'Église, on quitte le Seigneur et puis on revient à nos occupations. Non, le Seigneur est toujours avec nous. Lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il ne parle absolument pas de sa présence eucharistique. Comme quoi, vous voyez, c'est toujours dangereux d'insister sur un aspect de la foi en oubliant l'autre. Je suis comme vous, j'aime beaucoup faire oraison dans la chapelle de mon collège, surtout que je n'ai que 6 ou 7 mètres à faire de mon bureau à la chapelle, alors vraiment, je n'ai vraiment pas grand mérite. Il n'empêche qu'il ne faut pas oublier cette présence habituelle du Christ partout. Prenons un exemple. Charles de Foucault, qui aimait tellement passer des heures et des heures devant le Saint-Sacrement lorsqu'il se trouvait chez les Clarisses de Nazareth ou à Béni Abbès, en a été privé pendant des années lorsqu'il s'est trouvé au centre du Hogar à Tamanrasset. Après avoir reçu la permission de célébrer la messe tout seul par un adulte spécial de Rome, un adulte qu'il a reçu le 31 janvier 1908, on lui a retiré la permission de conserver la sainte réserve. On avait peur qu'elle ne soit enlevée par les pillards du désert. Et donc de 1908 à 1914, le père de Foucault n'avait pas de tabernacle à Tamanrasset. Mais il savait que Jésus était tout proche de lui, même si le tabernacle le plus proche était à plus de 1000 kilomètres de Tamanrasset. Voilà. Donc, je ne vais pas faire toute l'histoire de la dévotion eucharistique. Elle est repartie assez bien au XIIe siècle, après la contestation à la fin du XIe siècle de Béranger, où un saint prêtre de Tours a enseigné une doctrine sur l'eucharistie qui a un peu déstabilisé le peuple chrétien. En 1099, il a été obligé de signer une déclaration où il reconnaissait la présence substantielle de Christ sous les apparences du pain et du vin. Peu de temps après, on a demandé au prêtre d'élever bien haut l'hostie après la consécration. C'est l'origine de la grande élévation. Ça date seulement du XIIe siècle. Pour que les chrétiens puissent faire un acte de foi en la présence du Christ après la consécration. Au XIIIe siècle, une mystique du diocèse de Liège, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, a reçu révélation qu'il fallait instituer une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. C'est l'origine de la fête Dieu. Et l'évêque de Cambrai, à l'époque, a beaucoup encouragé la création de cette fête. Et on a demandé à saint Thomas d'Aquin d'écrire les magnifiques poèmes que nous chantons encore dans nos liturgies, Tantum ergo sacramentum, Ave verum corpus natum ex Maria Virgine. Et c'est seulement au XVIIIe siècle que saint Alphonse de Liguori, ce merveilleux napolitain fondateur des rédemptoristes, a inventé des prières devant le très saint sacrement. Et au XIXe siècle explose le culte de la prière devant le saint sacrement avec le père Hermann, un juif converti devenu carme, et surtout ce qui est en partage connu, l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement à Montmartre. Et on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les communautés nouvelles accordent beaucoup d'importance dans leur liturgie à cette prière devant le Saint-Sacrement. Alors que les moines plus anciens, comme les cisterciens ou les bénédictins, n'ont pas tellement de salut du Saint-Sacrement. Chez les cisterciens, il y a un salut du Saint-Sacrement le dimanche, avant l'office de complice, c'est très très modeste.
Par contre, à Reims, ils ont tous les jours, après l'office de vêpres, une demi-heure d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé.
N'imaginez surtout pas que les pères de l'Église, que tous les saints canonisés et que tous les saints de la première époque ne croyaient pas à l'Eucharistie, ils y croyaient autant que nous. Confère le commentaire que fait saint Cyrille de Jérusalem à ceux qui viennent d'être baptisés dans la nuit de Pâques, il explique la façon dont ils doivent communier dans la main. Il dit surtout n'écartez pas les doigts parce que vous risquez de laisser tomber des miettes par terre et une miette de ce pain consacré vaut plus que des grammes d'or. Donc c'est évident qu'ils croyaient au réalisme de l'Eucharistie autant que nous. Que devons-nous faire lorsque nous arrivons dans une chapelle devant le tabernacle, soit que le Saint-Sacrement soit sorti du tabernacle dans une exposition, soit qu'il ne soit pas exposé. Pourquoi les chrétiens aiment bien qu'on expose le Saint-Sacrement? Tout simplement, rappelle Mgr Charles, recteur de Montmartre, parce que nous sommes des êtres sensibles, nous avons besoin de voir. Au lieu de se dire, dans le tabernacle, il y a un ciboire, et dans le ciboire, il y a des hosties qui sont consacrées, on montre l'hostie. D'ailleurs, ces monstrances, ces ostensoirs, existaient au Moyen-Âge, puisque lorsque vous visitez des musées d'art religieux, vous voyez de belles œuvres d'orfèvrerie qu'on appelle des monstrances. Seulement, ça ne se faisait pas habituellement, ça se faisait exceptionnellement, cette monstration, cette monstrance de la Sainte Hostie. Donc, quand j'arrive à la chapelle, je dois faire ce que je fais dans toute oraison, me réjouir à l'avance de ce rendez-vous avec le Seigneur, et faire un geste qui exprime ma foi, une belle génuflexion, un signe de croix, me mettre dans une attitude qui me permette de rester éveillé et tranquille pendant un certain temps, et puis surtout, mettre le contact et rectifier l'intention. Seigneur, tu es là devant moi, j'y suis aussi. Ne pas attendre que ça vienne, ce qu'on appelle dans la grande tradition la mise en présence de Dieu. Et puis, c'est pour toi que je suis là, Seigneur. Je ne viens pas chercher des idées pour ma prochaine catéchèse ou ma prochaine homélie. Je ne viens pas me faire consoler de mes peines. Je viens te faire plaisir. Et du coup, vous ne serez jamais déçu d'une prière devant le Saint-Sacrement. C'est fondamental. Ce fut le titre de la toute première conférence que j'ai donnée cette année-ci. Priez pour faire plaisir à Dieu. Je vous ai dit que nos églises seraient pleines si les personnes jeunes ou adultes d'une ville avaient l'audace de croire, parce que c'est une question de foi, qu'en allant à l'église, ils font plaisir à celui qui fait tourner les étoiles. C'est évident que ce n'est pas évident. Et on peut dire que les chrétiens sont les seuls au monde à affirmer cet énorme paradoxe que sans avoir besoin de Dieu, sans avoir besoin de nous, Dieu a plaisir à voir nos petits actes d'amour. Non seulement il a plaisir, mais il les mendie, dirait la petite Thérèse. Il les réclame, il en a soif. Je vous ai cité, je crois déjà, cette formule d'un père, d'un cistercien, Elred de Rivaux, la source a soif. Tantôt, nous allons à Dieu comme à une source d'eau vive qui nous désaltère. Tantôt, nous écoutons le Seigneur nous dire, « Mon petit Père, j'ai soif de ton amour, donne-moi à boire. » Je vais vous indiquer maintenant 12 pistes possibles de prière devant le Saint-Sacrement, car on n'est pas obligé de s'ennuyer devant le Saint-Sacrement. Hein? Et on n'est pas obligé d'adorer toujours. On intitule souvent les veillées eucharistiques nocturnes « adoration nocturne ». C'est une petite erreur. Je vais vous montrer que l'adoration n'est que l'une des attitudes que nous pouvons avoir devant le très saint sacrement. Et tous ceux qui disent « je m'en vais adorer le Seigneur », en fait, ils font autre chose qu'adorer. Parce que le Seigneur, il aime énormément qu'on fasse autre chose devant le saint sacrement. J'ai adopté un plan logique, c'est-à-dire un plan que je ne suis moi-même jamais. C'est un plan d'exposition pour dire beaucoup de choses. 12 pistes. 3 plus 6 plus 3. 3 attitudes où je me tiens plutôt devant le Seigneur. 6 attitudes où je laisse le Seigneur venir à moi. Viens Seigneur, Maranatha. Et 3 attitudes où je vais vers lui. Devant, il vient en moi, je vais vers lui. Et ces attitudes sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Et vous pouvez commencer par n'importe laquelle. Et puis vous pouvez faire aussi, vous pouvez choisir une autre piste sans danger d'avalanche. Donc, 3 attitudes où je suis plutôt devant le Seigneur. Me voici devant toi. Je peux penser, en commençant ma prière devant le Saint-Sacrement, que Jésus me regarde. C'était le réflexe de la petite Thérèse lorsqu'elle arrivait dans la chapelle de son Carmel à Lisieux. Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire, voilà mon ciel à moi. Et c'est pourquoi j'aime distribuer des images représentant le Christ de l'Hérin. C'est un crucifix du XIIe siècle que les moines de l'Hérin, dans l'île de Saint-Honorat, ont posé dans leur église abbatiale. Jadis, c'était dans le transept gauche. Maintenant, pour que tout le monde puisse en profiter, c'est au centre de l'église abbatiale. Un crucifix qui n'est pas du tout réaliste, puisqu'on y voit le Christ sourire. Mais je crois vous avoir déjà expliqué que ce crucifix exprime l'un des paradoxes de la vie du Christ, un paradoxe bien mis en valeur par Jean-Paul II dans sa lettre millénaire, dans sa lettre sur le troisième millénaire, le mystère d'un Christ qui était à la fois l'homme le plus heureux et le plus douloureux de la planète. Jean-Paul II cite notamment Catherine de Sienne disant « Jésus sur la croix devait au fond de son cœur jubiler ». Quand on sait qu'on est en train de sauver le monde, quand on a dit quelques heures plus tôt « Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés », on est forcément l'être le plus heureux qui soit, on est en train de réaliser le salut du monde. Ce qui n'empêche pas Jésus de connaître une terrible agonie. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un paradoxe de plus dans ma foi. Bon. Il y a un autre Christ souriant assez célèbre, c'est celui qu'a connu saint François Xavier dans son village natal du Pays basque espagnol. À Xavier, il y a un crucifix un peu semblable que les jésuites aiment beaucoup diffuser. Et alors, en priant devant ce crucifix, je me rappelle que Jésus est vraiment actuellement en train de me sourire. Parce que ressuscité, il conserve un visage et donc il sourit à chacun d'entre nous. Si je regarde à gauche, je ne peux pas regarder à droite, tandis que Jésus est capable de poser son regard sur chacun d'entre nous. Et en ce moment, il le fait, justement. Il n'y a pas qu'à la chapelle qu'il le fait. Et grosse erreur de ne penser au sourire de Jésus que lorsqu'on est à la chapelle. C'est terrible. C'est malheureux. Pensez-y à la chapelle, mais pensez-y autrement. Au volant de votre voiture, quand vous travaillez, quand vous jouez, quand vous faites n'importe quoi, Jésus est là en train de vous regarder et de vous sourire. Il est tout proche. Parce que par sa résurrection d'entre les morts, il est capable d'être à Cambrai, à Douai et à Buenos Aires. C'est justement la caractéristique d'un corps ressuscité, il échappe aux limitations de l'espace et du temps. Et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est partout qu'il est capable de transformer ce pain et ce vin en son corps et en son sang. Et ne réduisez surtout pas la présence de Christ à cette merveilleuse présence au tabernacle. Sinon, il y a quelque chose de bancal dans votre foi. Ça sera peut-être le résultat de cette conférence d'aujourd'hui. Vous persuadez que c'est magnifique de prier devant le tabernacle pour au mieux prier encore en dehors et penser que Jésus est présent partout. Bon, vous connaissez la fameuse réflexion qui avait enthousiasmé le curé d'Ars. Il y avait tout près de l'église de ce village un maréchal ferrant, le père Chaffangeon, qui aimait rester longtemps dans le fond de l'église sur un banc avant de partir à son travail. Et un jour, un autre cultivateur lui dit « Mais qu'est-ce que vous pouvez bien lui dire, père Chaffangeon, à rester si longtemps devant le tabernacle ?» Réponse du père Chaffangeon « Je ne lui dis rien, je l'aveuse et il m'aveuse dans son patois de Bourg-en-Bresse. Dans le nord, on dirait « Je le ravise et il me ravise. » Et à Paris, je l'avise et il m'avise. » Bon, on peut faire de sa prière devant le Saint-Sacrement un simple échange de regards, se réjouir à l'idée que Jésus me regarde. Je pense à une personne qui m'a confié lors d'une retraite qu'elle suivait à Lisieux qu'elle était restée presque toute la nuit à la chapelle, en se contentant de répéter avec Thérèse « Tu me suis d'un regard d'amour toujours ». On appelle cela une raison de simplicité quand le Seigneur vous donne, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de rester longtemps en prière avec une seule parole dans la tête. Mais je vous l'ai dit et redit, si vous êtes, ce n'est pas une raison meilleure qu'une autre, c'est une raison d'un autre genre, plus facile, qui paraît plus mystique, mais qui ne l'est pas. Voilà. « Fais briller sur moi ton visage et je serai sauvé ». Dans mon petit livre sur le sourire de Jésus, je rappelle justement que les Juifs utilisaient cette formule de la face de Dieu pour affirmer que Dieu était quelqu'un, qu'il n'était pas une divinité impersonnelle, comme le pensent les panthéistes, comme le pensent les adeptes du Nouvel Âge. Seulement, les chrétiens reprennent ces psaumes à la lettre, car nous croyons que en Marie, Dieu a pris un visage pour toujours. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs, l'Église, dans le Concile Nicée II, 787, a légitimé le culte des icônes, le culte des statues, des vitraux, des mosaïques. Les chrétiens osent enfreindre l'interdiction de l'Ancien Testament, qui disait « Tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu », parce que nous croyons, nous, que Dieu a pris visage humain, donc il est normal de le représenter. Comme dirait Malraux, la fête de Noël, c'est la date de naissance de l'art chrétien.